Vous écoutez, on lit pour vous.
Nous devons prendre soin de la santé mentale et du bien-être des femmes entrepreneurs au Canada. Une chronique de Rosalind Lockyer, parue le 12 novembre 2024 dans La Source. Les entrepreneurs canadiennes se démarquent par leur dévouement à créer et gérer leurs propres entreprises. Le nombre de femmes entrepreneurs au Canada augmente et leurs contributions ont une incidence positive sur l'économie, que ce soit dans le commerce de détail, les services alimentaires, les communications, les métiers spécialisés, la technologie ou d'autres secteurs. Les femmes entrepreneurs ont créé plus de 1,5 million d'emplois et ont contribué à hauteur de 150 milliards de dollars à l'économie canadienne, selon des études. Cependant, malgré ce succès, une enquête récente menée auprès de femmes entrepreneurs par le PARO, le Centre pour l'entreprise des femmes, un organisme à but non lucratif, révèle que les entrepreneurs sont confrontés à des difficultés qui ont des conséquences néfastes sur leur santé mentale et leur bien-être. Si l'entrepreneuriat est déjà difficile en soi, surtout dans le contexte actuel d'incertitude économique, d'inflation et de pandémie, être une femme en affaires ajoute un degré de complexité supplémentaire. Pour aider les femmes à réussir en tant qu'entrepreneurs, les gouvernements à tous les niveaux doivent soutenir des politiques adaptées à leurs défis particuliers. L'accès au financement est l'un des principaux obstacles pour les femmes entrepreneurs. Selon l'enquête de PARO, 86 % des femmes entrepreneurs ont déclaré que les facteurs financiers représentaient une source de stress majeure. Cela n'est pas surprenant. Des études montrent que la moitié des femmes entrepreneurs rencontrent des difficultés lorsqu'elles tentent d'obtenir un financement pour leur entreprise. En outre, les demandes de financement des entreprises dirigées par des femmes sont plus susceptibles d'être rejetées d'emblée que celles de leurs homologues masculins. Par rapport aux hommes, les femmes entrepreneurs déclarent également avoir plus de difficultés à trouver, à être admissibles et à présenter des demandes pour des programmes d'aide gouvernementale. La conciliation travail-famille constitue un autre défi de taille. En raison de normes liées au genre dépassées, voulant que les femmes soient les seules ou principales responsables des soins et des tâches ménagères, les femmes entrepreneurs peuvent se sentir dépassées lorsqu'elles doivent s'occuper de leurs enfants et de leurs parents âgés tout en gérant leur entreprise. L'enquête a révélé un manque de mentorat et de réseau de soutien, ce qui prive les entrepreneurs d'un accompagnement et de conseils qui peuvent s'avérer essentiels à leur réussite. Lors des tables rondes de PARO à la suite de l'enquête, les entrepreneurs ont évoqué la nécessité d'un système de jumelage entrepreneurial pour réduire le sentiment d'isolement face aux défis professionnels et familiaux. L'enquête a également révélé que les femmes entrepreneurs qui tentent d'obtenir un soutien en matière de santé mentale doivent payer de leur poche des services privés coûteux ou faire face à de longues listes d'attente pour l'accès à des ressources financées par le gouvernement. Cela fait que plusieurs d'entre elles se sentent démoralisées et délaissées dans leurs moments difficiles. Ces défis sont encore plus grands pour les entrepreneurs autochtones ou issus des minorités visibles qui doivent également composer avec les effets du colonialisme, de la discrimination systémique et du racisme. Ces problèmes sont aggravés par le manque de représentation des femmes dans les postes de décision au sein du gouvernement et d'entreprises privées. La sous-représentation des femmes entrepreneurs dans des postes de direction peut restreindre leur capacité à imaginer et à mener leurs propres projets d'entreprise. Le manque d'exemples diversifiés à suivre diminue aussi les occasions d'accompagnement et de soutien entre pairs et crée des obstacles supplémentaires pour les femmes qui doivent contourner les complexités du milieu entrepreneurial. La bonne nouvelle, c'est que les gouvernements disposent de plusieurs moyens pour mettre en place un système de soutien solide pour les femmes entrepreneurs afin de réduire ou éliminer les problèmes de santé mentale et de bien-être auxquels elles sont confrontées. Les gouvernements doivent veiller à ce que les femmes entrepreneurs aient un accès équitable au financement d'entreprises. Ils doivent également soutenir les programmes financiers dont les critères et les demandes sont adaptés à la participation des femmes, afin que les entrepreneurs puissent accéder plus facilement au financement dont elles ont besoin. Les gouvernements doivent évaluer les mesures actuelles pour déterminer l'admissibilité des candidatures et assurer un accès équitable pour des populations diversifiées. Les gouvernements doivent également financer les organisations qui créent davantage d'occasions de réseautage et de mentorat pour les femmes entrepreneurs, en particulier celles qui mettent de l'avant la diversité, l'inclusion et la visibilité des entrepreneurs prospères de tous les horizons. En outre, ils doivent s'attaquer aux stéréotypes de genre et améliorer l'accès à des ressources tels que les services de garde, afin d'améliorer l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Les gouvernements doivent également améliorer l'accès aux ressources essentielles en matière de santé mentale, surtout l'accès rapide à celles-ci, afin que les femmes entrepreneurs puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin en temps opportun. Dans leur propre rang, les gouvernements doivent créer davantage de possibilités pour les femmes d'accéder à des postes de décision. La présence d'un plus grand nombre de femmes à des postes de direction peut stimuler le progrès sociétal et permettre aux entrepreneurs de réaliser leurs aspirations. Les femmes entrepreneurs créent de la richesse et des emplois, ce qui profite à leur collectivité et à l'économie canadienne. Pour les aider à réussir, nous devons nous attaquer aux problèmes de santé mentale et de bien-être auxquels elles sont confrontées. Rosalind Lockyer est fondatrice et chef de la direction de Paro Center pour l'entreprise des femmes Ontario, Paro Canada et membre du conseil d'administration de l'organisme Organisation d'entreprises de femmes du Canada, OEFC. C'était « Nous devons prendre soin de la santé mentale et du bien-être des femmes entrepreneurs au Canada », une chronique de Rosalind Lockyer, parue le 12 novembre 2024 dans La Source.
Vers un amour décolonial, un texte d'Amel Zaza paru le 30 août 2024 dans la revue Liberté. Amel Zaza imagine de nouvelles voies et de nouveaux mots pour décoloniser nos pratiques amoureuses. Si l'amour est un langage, il est crucial d'en réinventer la grammaire. Citation : J'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Fin de citation, Kateb Yassine. Je suis une femme migrante, originaire du nord de l'Afrique. La langue dans laquelle je communique la plupart du temps n'est pas ma langue maternelle, mais un legs colonial. Mon territoire natal, la Tunisie, a été déclaré indépendant en 1956, mais les dynamiques néocoloniales et l'acculturation française de mon peuple continuent jusqu'à nos jours. Après avoir participé activement à une révolution qui a été l'étincelle de ce qu'on a appelé en 2011 le printemps arabe, j'ai fait l'expérience de l'exil pour la première fois de ma vie. mes pieds ont foulé le territoire non cédé de Tiotiake en novembre 2013 et c'est à ce moment que j'ai pris pleinement conscience des violences coloniales en cours. Les efforts de propagande déployés par le Canada, considérables, me donnaient l'impression, de l'extérieur, que la coexistence entre peuples autochtones et allochtones se déroulait dans ce pays dans la paix, le respect et l'harmonie. C'était une expérience dissonante d'arriver sur un territoire où mon marqueur d'appartenance est une langue et une culture qui ont tenté, et tentent toujours, d'effacer ma langue et ma culture autochtone. Comprendre, en plus, que ma présence ici est d'une certaine façon semblable à celle des colonies de peuplement que les Français pratiquaient en Tunisie du temps du protectorat, a été une prise de conscience assez brutale. Si ma lignée et moi ne sommes pas les architectes de ce système, il n'en demeure pas moins que nous sommes, malgré nous, des pions à son service, puisque par nos présences, nous renforçons sa légitimité et son pouvoir. En Tunisie, j'ai évolué au sein d'un système d'éducation et d'un milieu intellectuel fortement acculturé par la France et dans des écoles, certes publiques, mais qui aspiraient à l'élitisme à la française. J'ai donc intériorisé cette idée que l'universel des dominants est l'unique boussole possible. Après des années de travail de déconstruction, j'ai compris que cet universel, avec sa prétendue objectivité, n'est qu'une tentative fallacieuse de camoufler un système qui inflige au quotidien une violence épistémique invisibilisant nos réalités. C'est la raison pour laquelle je ne prétends plus à la neutralité et que, dans l'ensemble de mes interventions, je navigue souvent entre récits personnels et analyses politiques. Je pense que ce sont ces récits qui doivent constituer le point de départ d'une production de savoirs incarnés. Et je suis convaincue que la politisation des récits individuels est une étape primordiale qui pave le chemin vers la libération collective. Ce sont par ailleurs les récits et les savoirs de personnes se situant aux marges qui ont le plus révolutionné mes perspectives et m'ont permis de tisser un universel dans lequel je me vois. Les dimensions du processus colonial. De ma perspective, la colonisation s'inscrit dans un continuum de violence qui prend d'abord racine dans l'altérisation et l'infériorisation d'autrui. Ce procédé, nommé racialisation en sociologie, touche les individus, les territoires et les communautés et justifie la mainmise et le pouvoir exercé sur ces altérités. Louis Mel Madrona, un psychiatre et guérisseur autochtone, utilise un concept exposant parfaitement ma vision de notre relation précoloniale à soi et à ce qui constitue notre monde. Il dit « We co-create each other all the time. » Ellipse. « It's not we are, we inter-are. » Il ne s'agit pas d'être, mais d'inter-être. Quelle façon puissante et radicale de sceller avec un simple préfixe nos sorts, de nous mettre sur un pied d'égalité tout en disant la complexité, la richesse de ce qui nous lie, mais aussi notre pouvoir collectif. En ce sens, le procédé colonial détruit cet inter-être dont parle Madrona. Il s'attaque fondamentalement à nos relations à nous-mêmes, à nos communautés et à nos territoires. Parenthèse, j'ajoute que la langue française me contraint à l'emploi du déterminant possessif « no », que j'utilise pour caractériser non pas une relation de possession, mais plutôt d'appartenance. Fin de parenthèse. En affectant ces relations, il corrompt inévitablement notre pratique de l'amour. Dans son livre « Communion », Bell Hooks parle d'une déformation originelle de l'amour à laquelle on conditionne les femmes. Celle-ci prend racine dans la carence. En tant que femme racisée, issue d'un peuple colonisé, je crois, comme Hooks, que grandir sur un territoire et dans une communauté subissant la colonisation depuis plusieurs générations a altéré ma compréhension et ma pratique de l'amour et celle de toute ma lignée. Depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai intériorisé l'idée que nos corps ne nous appartiennent pas, qu'on les orientalise, qu'on les fétichise. On les modèle selon l'esthétique du dominant et en fonction de son regard voyeuriste. Je me souviens du dégoût indicible que j'ai ressenti la première fois que je suis tombée, dans un livre d'histoire, sur les photographies des femmes de ma communauté, les seins exposés, le visage décomposé. Il y avait quelque chose dans l'expression de toutes ces femmes déshabillées sous la contrainte par les colons durant les conquêtes de l'Empire français, qui exprimait la profonde dissociation se produisant entre elles et leur corps exhibé de force. Pour le colon blanc, conquérir le territoire n'était pas suffisant. Il lui fallait des trophées immortalisant sa toute-puissance, des trophées qui voyagent à travers le monde pour raconter son omnipotence et sa souveraineté sur les corps des femmes indigènes. Dénuder ses corps était aussi une façon pernicieuse d'humilier les masculinités indigènes, puisque sous couvert de libération féministe, le colon immortalisait aussi l'impuissance des hommes face au viol des corps de leurs épouses, de leurs sœurs, de leurs mères. Ces images m'ont longtemps hantée dans ma jeunesse. J'essayais d'imaginer comment ces femmes, dont on violait l'intégrité physique et psychique, avaient pu survivre à la chouma, la honte dont elles avaient été couvertes. Quel rapport avaient-elles pu avoir à leur corps, à leur sexualité, après ces ignominies? Comment ont-elles continué à élever leurs filles? Quel séisme cela a-t-il pu provoquer au sein de leur couple, dans leurs relations intimes et au sein de leur communauté? Je pensais à tout cela et mes yeux se remplissaient de larmes, tandis que tout mon être frémissait d'une colère sur laquelle je ne mettais pas encore de mots. Mon corps vibrait comme si l'histoire de leurs abus était inscrite dans l'ADN de toute ma lignée et m'avait été transmise. Comme l'écrit Azouz Bogag, citation, « Toutes les colonisations doivent être considérées comme un viol commis à main armée. » Fin de citation. Et le comble de l'aliénation est qu'on continue à nous enseigner à l'école, à nous, descendants, descendantes de ces survivantes, que nos ancêtres et nos territoires ont été violés dans la jouissance. Que grâce à ce viol, nous avons eu accès à l'éducation, avons été civilisés et sommes entrés dans leur modernité. Pour le conquérant, l'homme blanc, parenthèse, et quand je parle de l'homme blanc, je ne désigne pas la blancheur de la peau, mais la blanchité comme projet politique de domination d'une race supérieure sur des races subalternes, telle que Charles Mills l'a définie dans « Le contrat racial ». Fin de parenthèse. Le civilisateur, l'inventeur des sciences et des lumières, celui qui a découvert et défriché les terres sur lesquelles nous étions pourtant déjà présentes, notre humanité est négociable. Elle doit se défendre et se mériter, car nous sommes les subalternes dont les histoires et les savoirs sont situés en marge du « monde civilisé ». Ce sont d'ailleurs ces rhétoriques d'altérisation qui ont justifié les conquêtes, l'exploitation impérialiste, l'esclavage, les génocides des peuples autochtones. C'est ce procédé qui a été la pierre angulaire de ce qui constitue aujourd'hui la modernité occidentale. Vous écoutez « Vers un amour décolonial », un texte d'Amel Zaza, paru le 30 août 2024 dans la revue « Liberté ». Mes premiers pas vers l'amour décolonial et la libération collective. Ce regard de l'autre finit par se confondre avec nos voix intérieures et opère en nous une fracture, une aliénation coloniale, comme la nomme Frantz Fanon, père fondateur de la social-thérapie. Quand on grandit en se contemplant dans ce miroir déformant, il est évident qu'il faut du temps et de la volonté pour guérir de cette impossibilité de l'amour. C'est précisément là que j'ancre mon cheminement vers la pratique de l'amour décolonial. L'un des éléments importants de ce cheminement, que Hooks défend d'ailleurs dans ses écrits, est que l'amour est une capacité, un apprentissage. Il ne va pas de soi, et ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est nécessairement plus aimante ou davantage prédisposée à l'amour. Il est par contre vrai que les femmes sont conditionnées à prodiguer du soin, à se mettre au service d'autrui, et dans ces contextes, les mères nourricières, comme Hooks les appelle, peuvent être portées à confondre ce rôle social avec l'amour. Or, puisque ce rôle n'est pas nécessairement choisi, mais plutôt imposé par le patriarcat et les autres structures de domination, Il arrive assez souvent que ces mères estiment que prendre soin des autres leur confère des droits de domination sur elles-le. Elles pratiquent alors une forme d'amour tyrannique, notamment envers leurs enfants. Si je mets « amour » entre guillemets, c'est parce que Hooks affirme que l'amour ne peut coexister avec la domination et la tyrannie. C'est précisément dans ce type de foyer que j'ai grandi, où il a davantage été question d'aliénation que d'amour au sens où je le définis aujourd'hui. Je dois admettre que j'ai passé beaucoup de temps à avoir honte de mes aliénations parce que je les croyais individuelles. Je croyais que j'étais personnellement brisée et que j'étais responsable de mes brisures. En vieillissant, j'ai rencontré d'autres personnes, surtout des femmes aliénées comme moi, qui ont eu le courage de partager leurs récits et qui nous ont permis de collectiviser nos vécus, de leur donner du sens et de les politiser. J'ai réalisé que le problème individuel que j'essayais de guérir seul à coups de séances de thérapie, d'antidépresseurs et de toutes sortes d'inhibiteurs de ma souffrance était en réalité un enjeu systémique. Cette étape a été cruciale parce qu'elle a été le premier pas vers ma libération et ma guérison. Elle m'a permis de comprendre ma souffrance, de l'articuler et surtout de réaliser qu'elle n'était pas inhérente à mon être, de sortir de la honte solitaire, celle-là même qui a aussi empêché mes parents de me donner accès à notre généalogie traumatique, me privant ainsi d'une partie de mon être restée pendant longtemps inintelligible et pourtant omniprésente. Mon parcours de guérison a donc commencé par le rejet de toutes les pathologisations occidentales de nos aliénations coloniales, ainsi que des multiples diagnostics qui me déclaraient défaillante pour toujours et ne m'offraient que la médication à vie pour soulager mes symptômes. Pour moi, la maladie, appelons-la plutôt la dysfonction que manifeste une personne, ne peut être analysée dans une perspective isolée de l'époque et de l'environnement dans lesquels elle s'inscrit. À cet égard, Luis Madrona dit ceci, que je traduis librement, citation, « Lorsque quelqu'un tombe malade, la communauté lui dit merci parce que sa maladie est une manifestation de notre maladie. » Fin de citation. Pour lui, plaquer des diagnostics sur une personne, c'est déplacer la problématique de l'environnement qui la rend malade pour la pointer, elle, comme étant intrinsèquement dysfonctionnelle. Ce qui non seulement n'aide pas sa guérison, mais en plus l'emprisonne dans une fatalité dont elle ne peut plus se libérer. La citation continue ainsi, « Nous vivons dans un monde bien cruel où nous rendons les gens incurables. Est-ce pour que nous n'ayons pas à travailler dur pour les comprendre ?» Ellipse. Au lieu de cela, nous leur donnons des médicaments pour remplacer la présence de leur communauté. Fin de citation. Il m'est apparu assez clairement dans ce cheminement que la communauté était un élément central et que les pratiques collectives et les savoirs ancestraux étaient essentiels à sa cohésion. Pourtant, la médecine occidentale a longtemps diabolisé ces savoirs traditionnels et cherché à les anéantir dans tous les territoires colonisés du Sud global. Comme l'affirme Audre Lorde dans Sister Outsider, citation, pour se perpétuer, toute oppression doit corrompre ou déformer, dans la culture de ceux qu'elle opprime, ces différentes sources de puissance capables de générer l'énergie nécessaire au changement. Fin de citation. Et c'est précisément cela, le fondement d'un système invalidant des savoirs millénaires complexes qui conceptualise le soin et la santé communautaire dans une perspective holistique au profit d'une vision de la médecine et de la guérison centrée sur l'individualité, déconnectée des relations communautaires et des violences systémiques à l'origine de la maladie. En somme, la priorité de ce système est de maintenir ses rouages intacts, de minimiser l'ampleur des réactions physiques et mentales aux violences afin que ces dysfonctionnements individuels et collectifs ne se transforme pas en multiples grains de sable pouvant mettre en péril le fonctionnement du mécanisme global. Réhabiliter la colère comme un acte d'amour radical. Cette nouvelle perspective m'a permis de considérer mes dysfonctionnements comme un super-pouvoir plutôt que comme une tare. Tout mon être n'était pas en train de faillir. Au contraire, il rejetait ses violences et me le montrait par toutes sortes de symptômes. Mon corps était en train de me dire de résister. La colère non digérée qui causait mes insomnies, mes maux de tête et mes épisodes de dépression était une manifestation d'amour radical pour moi-même et pour ma communauté. Au lieu d'abdiquer et de continuer à performer indéfiniment dans un système qui me considère comme une subalterne corvéable jusqu'à ma mort, une voix puissante me hurlait que mes semblables et moi méritions mieux. Au cours de mes nombreuses séances de thérapie, on a souvent tenté de me convaincre que la colère était un sentiment négatif et néfaste, que je devais la discipliner, m'en débarrasser pour guérir et, en tant que femme, on m'a inculqué depuis un très jeune âge que ma colère et ses manifestations n'étaient pas très féminines et traduisaient un manque de maîtrise de soi. À l'âge adulte et même en naviguant dans les milieux féministes, on m'a reproché mes indignations excessives, mon ton parfois menaçant ou agressif chaque fois que j'ai tracé les lignes de nos divergences et que j'ai pointé, pour reprendre les mots d'Audre Lorde, les talons des féministes blanches sur nos visages. J'ai donc d'abord camouflé mes colères, je les ai comprimées jusqu'à frôler l'explosion, jusqu'à littéralement suffoquer. J'ai cédé aux injonctions formelles dans l'espoir d'être écoutée sur le fond. J'ai laissé mes colères me ronger, je me suis enfoncée dans un gouffre intérieur empli de honte au lieu de les embrasser et de les valider. Paradoxalement, c'est dans les moments où je tentais d'inhiber le plus ma colère que j'étais le moins alignée avec mon être et le plus en souffrance. Et c'est précisément grâce à ces moments que j'ai réalisé à quel point ma colère avait toujours été salvatrice. Elle m'a gardée vivante en me permettant d'embrasser mon agressivité, de refuser le rôle de victime qui m'était assigné naturellement. C'est ma colère qui a été l'énergie puissante à la source de toutes les luttes que j'ai menées, et il m'a fallu presque 4 décennies de vie avant de l'apprivoiser et de l'accepter comme étant mon énergie vitale et la traceuse de ma voie vers l'amour radical. Et plus je marche dans ce sillon creusé dans l'adversité par quelques courageuses avant moi, plus j'aspire, pour reprendre les mots de l'une d'entre elles, à ce qu'une partie de ma colère soit une offrande à mes sœurs qui sont tombées, ainsi qu'à toutes les femmes de ma lignée dont la survie m'a permis d'apprendre à aimer. C'était « Vers un amour décolonial », un texte d'Amel Zaza, paru le 30 août 2024 dans la revue « Liberté ».